restons encore dans quelques instants dans la prière. Allez, Seigneur, je me confie en toi. Seigneur, je te prie que ta parole nous éclaire ce matin. Je te prie que ta parole vienne vraiment faire son œuvre dans nos cœurs à chacun. Nous avons tous besoin de toi. Nous avons tous besoin de tes révélations. Seigneur, je prie que rien de moi ne fasse obstacle à ce que toi tu veux dire. Je te loue, Père, de ce que tu as prévu pour chacun ce matin, de la nourriture que tu as pour chacun, Seigneur, de ce que tu veux que chacun puisse assimiler de toi là où il en est, Seigneur. Amen. On a entendu les dernières paroles dans la louange. Seigneur, tu reviens. Seigneur, tu reviens. Il y a des choses qui se passent autour de nous, effectivement, qui nous amènent à nous poser beaucoup de questions. Ces derniers temps, il y a quelques semaines, il y a des enfants qui revenaient à la maison en disant « Est-ce qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale ?» En voyant les tensions augmenter entre l'Iran et les États-Unis, même si ça a un peu retombé là ces derniers temps, on pourrait se demander comment est-ce que le climat va évoluer, est-ce que nous allons connaître, a priori nous voyons des catastrophes naturelles qui ont l'air de prendre de plus en plus d'ampleur, comment ça va être vivable sur Terre? Nous voyons comment les nouvelles technologies prennent aussi de l'ampleur. Et puis, il y a des choses vraiment super dans les nouvelles technologies. Mais on pourrait aussi se poser la question, mais est-ce qu'on va se laisser dépasser quand on voit les enfants aussi qui peuvent être parfois livrés à eux-mêmes devant des écrans? Dernièrement, on a rencontré la prof de français d'un de nos fils qui nous disait comment les notes de français avaient baissé de manière générale chez les enfants. Elle n'arrêtait pas de revoir son barème à la baisse en disant que mais là, je peux plus, là. Je peux plus continuer comme ça. Et je lui demandais, mais pour vous, c'est lié à quoi? Est-ce que c'est lié aux écrans? Alors oui, certes, c'est lié aux écrans, mais aussi au manque de cadre que les parents peuvent donner. Et en même temps, quand on voit comment la vie est, le rythme dans lequel on est, c'est pas évident pour les parents non plus de donner un cadre. Ça peut faire penser à des paroles dans la Bible aussi où il est dit que à un moment les enfants seront rebelles à leurs parents. Alors qu'est-ce que ça dit aussi peut-être d'un déséquilibre dans la vie familiale? Bref, il y a plein de questions qu'on peut se poser. Je pense aussi à la persécution de l'Église. Dernièrement, je voyais l'index de persécution qui est donné tous les ans par Portes Ouvertes. Et qui disait que donc vous aviez en 2018 1847 églises qui ont été la cible d'attaque, alors c'est-à-dire des attaques terroristes, mais ça peut être aussi des fermetures d'églises de la part d'un régime oppressif. Et en 2019, il y a eu 9488 églises qui ont été la cible de telles attaques. Ça a été multiplié par 5. Donc c'est énorme, c'est énorme. Donc voilà, c'est plein de choses qui peuvent nous poser cette question, sans doute plein de chrétiens avant nous, depuis 2000 ans, se sont posés, depuis plus de 2000 ans, est-ce que le retour de Jésus-Christ est pour cette génération? Est-ce que le retour de Jésus-Christ est pour cette génération? Alors on ne connaît pas la date, donc je ne peux pas vous le dire, mais j'aimerais que nous voyions cette question ensemble à partir d'un texte, dans les Actes, et c'est dans le premier chapitre des Actes que je vais vous lire à partir du verset 4, donc dans le livre des Actes, le chapitre 1, les versets 4 à 14. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda, Jésus, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. et dire « Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de Shabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc voilà, je parlais de toutes ces questions que nous pouvons avoir et nous le voyons. Je ne sais pas si tu arrives à afficher un peu plus le texte. En tout cas, tu peux afficher le verset 6. Nous le voyons, les disciples aussi avaient des questions. Et par exemple, là, la question qu'ils ont, elle prend cette tournure-là. « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» En Matthieu 24, il l'exprime de cette manière. « Quel sera le signe de ta venue ? Quel sera le signe de ton retour et de la fin de cet âge ?» Et à ces questions, la réponse de Jésus est toujours la même, toujours la même. Il donne des indications sur comment ça va se passer. La parole nous donne aussi, au travers des apôtres, les conditions qui doivent être réunies pour que le retour de Jésus se fasse. Mais jamais Jésus ne vient de donner de date. D'ailleurs, il ne le peut pas, il le déclare lui-même dans un verset que nous avons lu, qu'il nous dit que ces temps ont été fixés par le Père de sa propre autorité, que lui-même ne le sait pas, et qu'il ne nous appartient pas à nous-mêmes de le savoir. Ça ne nous appartient pas. Mais à côté de cela, à chaque fois que Jésus parle de la fin des temps, il laisse ce leitmotiv, veillez et priez, à chaque fois, veillez et priez. Veillez et priez, ça n'apparaît pas dans ce texte que nous avons lu. Mais quand les anges disent aux disciples qui regardent Jésus monter au ciel, « Vous les Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder fixement le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra vers vous de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » Ils donnent le même message. Ils sont en train de dire « Mais arrêtez de vous prendre la tête à essayer de savoir à quel moment Jésus va revenir et de vous faire peur avec tout ce qui va se passer autour de ça, de vivre dans la peur. Mais au contraire, faites confiance à ce qu'il vous a dit, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra vers vous de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Et tenez-vous prêts. » Donc arrêtez de vous prendre la tête à essayer de le savoir, mais tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts aujourd'hui, dès maintenant. Tenez-vous prêts à chaque instant. Autrement dit, veillez et priez. Mais alors, comment veiller et prier ? Qu'est-ce que veiller et prier, ça signifie exactement ? Comment se préparer ? Comment se tenir prêt ? Et je voudrais venir sur ce que peut signifier veiller et prier au travers de ce texte que nous avons lu dans les Actes. Veillez et priez, au travers de ce texte que nous avons lu dans les Actes et aussi d'autres passages dans la parole. Veillez et priez, c'est d'abord le chemin par lequel Jésus nous conduit à vivre la séparation d'avec lui et l'attente de son retour. Veillez et priez, c'est un chemin. C'est un chemin dans lequel, le chemin au travers duquel nous vivons la séparation d'avec Jésus et l'attente de son retour. Nous n'aimons pas les séparations. On n'aime pas les séparations. Les séparations, c'est douloureux. Et on le voit d'ailleurs chez les disciples. On le voit en particulier chez les disciples au moment de cette première séparation avec Jésus qui commence à l'arrestation jusqu'à ce qu'il leur apparaisse une première fois en tant que ressuscité. C'est un moment terrible. Déjà, au moment de l'arrestation, il cède à la panique. Tout le monde s'enfuit. Il le laisse seul, il l'abandonne. Et il commence à perdre cet idéal que le Messie va rétablir le royaume d'Israël, va les délivrer de l'occupation romaine et va installer son règne éternel. Et cet idéal vole en éclats au moment de la crucifixion. Et là, ça les laisse dans la peur, la terreur de eux-mêmes être crucifiés, eux-mêmes mourir. Ils ont peur des représailles des autorités, ils se cachent. Et ils sont même dans le doute, voire dans l'incrédulité. On le voit avec Thomas à la fin de l'évangile de Jean. Et même aussi dans la fin de l'évangile de Matthieu, il est dit que alors que Jésus s'apprête à monter au ciel, tous se prosternent autour de lui et certains hésitèrent. Jusqu'au bout, il y a du doute. Nous n'aimons pas les séparations, oui, elles sont douloureuses. Et c'est le cas pour cette première séparation avec les disciples. Dans l'Église, nous allons, dans notre Église, vivre une séparation. Quant à Estelle et moi-même, avec nos enfants, nous allons partir. Et ça peut laisser chacun dans divers ressentis, dans diverses pensées. Dans divers sentiments, merci mon frère. Dans divers sentiments. Personnellement, moi aussi ça me travaille. Moi, pour vous dire que les séparations, ça vient travailler des choses en nous. Moi, ce qui vient me travailler, par exemple, c'est le fait de décevoir les autres. Et ça, moi, j'ai du mal à le supporter. Et pourtant, décevoir l'autre, c'est nécessaire. C'est important d'apprendre à décevoir les autres. Même Jésus a déçu. Jésus a déçu ses disciples. Jésus a choisi Pierre comme apôtre pour conduire les autres. Il n'était pas forcément... qui était parfois si décevant. Et Dieu lui-même peut être vécu comme étant décevant quand il ne vient pas répondre à nos attentes, à nos désirs comme nous le souhaiterions, comme de nous laisser attendre son retour depuis plus de 2000 ans. Et pourtant, la déception, je le disais, c'est nécessaire. Si dans un couple, on n'apprend pas à être déçu par l'autre et à être décevant pour l'autre, ça peut être compliqué. Parce qu'on ne peut pas être tout pour l'autre. L'autre ne peut pas être tout pour nous. Dieu, il vient nous remplir, mais il ne vient pas nous combler. Il laisse un espace. Dieu, dans le sens où il ne répond pas à tous nos désirs, à toutes nos attentes, il répond à nos besoins. Il ne répond pas à tous nos désirs, à toutes nos attentes. Donc, les séparations, elles sont douloureuses, mais elles sont nécessaires, parce qu'elles sont porteuses de vie. D'ailleurs, notre existence humaine, elle est jalonnée de séparations, depuis la naissance, en allant à l'école, tout au long de l'éducation, jusqu'à quitter le foyer parental, éventuellement se marier, fonder une famille, puis après, voilà, il y a toute une série de séparations, quitter son travail et mourir, tant que la mort existe. Voilà, ce sont des séparations qui sont normales. À chaque fois, c'est un deuil, et un deuil suppose une perte, mais à chaque fois, ça ouvre sur un changement, sur la possibilité d'un changement. Ça ouvre sur une croissance. Et être séparé de Jésus, ça ouvre les disciples sur une croissance spirituelle. Nous, être séparés de Jésus et attendre son retour, ça nous ouvre sur une croissance. Une croissance où Jésus ne nous laisse pas seuls. Parce que veiller et prier, deuxièmement, veiller et prier, c'est le chemin dans lequel Jésus nous conduit par son esprit. Il nous laisse son esprit. Après avoir répondu à ses disciples que ce n'est pas à eux de connaître les temps fixés par le Père, de sa propre autorité, Jésus leur rappelle qu'ils recevront le Saint-Esprit, qu'il fera d'eux des témoins. C'est-à-dire qu'il fera d'eux des témoins, il va y avoir transformation intérieure par le Saint-Esprit pour faire d'eux des témoins. Veiller et prier, c'est un chemin et un cheminement. Un cheminement qui passe par diverses étapes. Un cheminement qui peut passer par la peur, par le doute, par l'incrédulité, par des tristesses, peut-être même par des colères. Et tu as le droit de ressentir tout ça. Il ne s'agit pas de se culpabiliser. Veiller et prier, ce n'est pas forcément quelque chose de triomphant et de lisse. « Waouh ! C'est bon, je suis tout le temps dans la confiance et tout le temps dans la paix. » Non, c'est un chemin. C'est un chemin. C'est un chemin qui aboutit par la transformation par l'esprit à ce que les disciples ont vécu après l'ascension, au moment de cette deuxième séparation avec Jésus, qu'ils ont vécu complètement différemment de la première. Où là, ce qu'ils ont vécu, c'est ce que nous dit le texte dans Actes. Ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de Shabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Voici ce que ça a développé. Voici l'aboutissement de ce chemin, de veiller et prier. Et aussi, dans Luc, à la fin de l'évangile de Luc, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Alors veillez et priez, le résultat, c'est cela. Mais veillez et priez, ce n'est pas que le résultat, c'est aussi le processus. C'est aussi le processus qui passe par différentes étapes. Donc il ne s'agit pas de te culpabiliser, si jamais, voilà, c'est lourd, s'il y a des choses qui sont compliquées. En particulier dans la perspective du retour de Jésus, dans son attente en tout cas, veiller et prier, ce n'est pas que le résultat, c'est le processus aussi qui conduit à cette attitude zélée dans la recherche de l'unité et la prière d'une manière persévérante, une attitude d'adoration et d'obéissance, une attitude de reconnaissance et de foi et une attitude de joie. Ça, c'est la destination. Il y a des moments où on y est. Des moments où on n'y est pas, et des moments où on y est, et on va vers cela, et on veut aller vers cela. Et enfin, donc Jésus nous donne son esprit pour marcher dans ce chemin de veiller et prier, mais il nous donne aussi, pour terminer, veiller et prier, c'est le chemin dans lequel Jésus nous conduit avec sa parole. Avec sa parole. Parce que ce serait beauté en touche que de s'arrêter là et d'en rester à un veiller et prier qui serait un prétexte à ne pas aller regarder ce que la parole dit sur le retour de Christ. Hein, ce serait, bon allez, c'est bon, veiller et prier et puis voilà, ça va aller. Hein. Parce qu'effectivement, il y a différentes compréhensions, différentes manières de voir. Si nous ne connaissons pas la date, si nous n'avons pas à connaître les temps qui ont été fixés par le Père de sa propre autorité, il y a quand même plusieurs éléments que Jésus nous laisse et que nous avons à connaître et devant lesquels nous avons à nous positionner, chacun, personnellement et aussi communautairement, en Église. À un moment, il est dit dans ce passage que nous avons lu, « Comme il se trouvait avec les disciples, Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. » C'est le verset 4. « Ce que je vous ai annoncé. » Ce qu'il a annoncé, ce que Jésus a annoncé, c'est toute sa parole. Bien sûr, là, c'est la promesse du Saint-Esprit. Mais ce qu'il a annoncé, c'est toute sa parole. Parce que l'Esprit n'est pas sans la parole. Et la parole n'est pas sans l'Esprit. C'est toujours ensemble. Et d'ailleurs, quand il est dit « comme il se trouvait avec eux », il y a d'autres versions qui disent « comme il partageait le repas avec eux ». En fait, littéralement, c'est « comme il partageait le sel avec eux ». Le verbe grec, c'est ce qu'il signifie, « comme il partageait le sel avec eux ». Et le sel, c'est quoi ? Le sel, oui, c'est ce qui donne la saveur au monde. Le sel, c'est la parole, ou plus exactement, le sel, c'est nous transformés par la parole. Le sel, c'est ce que la parole fait de nous, c'est-à-dire des témoins. Donc là, il est question de sa parole. Le sel, c'est ce que la parole fait de nous et nous rendant capables de transmettre sa parole autour de nous et pas transmettre sa parole n'importe comment. Parce que si vous mettez des kilos de sel, c'est pas très bon. Mais avec tact, pas de manière insipide. Et d'ailleurs, quand on touche à ce qui concerne la fin des temps, combien de fois on peut être dans des discours qui ne sont pas forcément adaptés ? Ou voilà, quand on essaye de... combien de fois on peut être aussi dans quelque chose de jugeant ? La parole, elle se délivre avec tact, avec douceur, avec amour. Et donc il convient d'aller voir ce que dit la parole. Ce que dit la parole. Étudier ce que dit la parole sur le retour de Jésus et sur ce qui y est lié, c'est aussi se tenir prêt. C'est aussi veiller et prier. Et c'est la responsabilité des prédicateurs de l'Évangile aussi que de donner les moyens à l'Église de pouvoir se prononcer, de pouvoir se positionner, de pouvoir chacun forger sa conviction. Alors je vais m'arrêter dans ce message, mais du coup, conclure en disant que je désire vraiment m'engager personnellement dans une série de messages concernant le retour de Jésus. Parce que voilà, c'est quelque chose aussi de diverses manières qui revient souvent dans notre Église. Et je crois que le temps est là de nous placer tous ensemble, devant ce que la parole dit, au travers de ce que nous voyons aussi, ce qui nous entoure dans le monde. Afin que chacun puisse forger sa propre conviction, mais pas n'importe comment, dans cet esprit de veiller et prier, tout en veillant les uns sur les autres, tout en se respectant les uns les autres, tout en respectant le rythme de chacun, tout en accueillant la conviction de chacun. Parce que peut-être ta conviction ne sera pas celle de ton voisin. Parce que quand on se place devant la parole, c'est un cheminement intérieur. C'est entre Dieu et soi. Il y a quelque chose voilà, qui se passe entre nous. Mais voilà, que ça puisse se faire dans cet esprit de veiller et prier, que nous puissions aller voir les textes tout en donnant plus de consistance à ce que signifie veiller à prier, afin que nous soyons vraiment dans cette attitude et que cela nous conduise ensemble dans un même chemin d'unité, ensemble dans la confiance, dans la paix et dans la joie, malgré ce qui peut se passer autour de nous. Amen. Alors prions. Oui Seigneur, c'est toi qui viens parler à nos cœurs. C'est toi qui viens parler à nos cœurs par ton esprit. Nous essayons de traduire les choses humainement. Nous essayons de transmettre ce que tu mets dans notre cœur, mais c'est toi qui parles dans le cœur de chacun aussi directement par ton esprit. Je te remercie de ce que tu sèmes, Seigneur, par ta parole. Tu vois toutes les questions que les uns et les autres nous pouvons avoir, toutes les attentes dans lesquelles nous pouvons être aussi, toutes les peut-être les frustrations, les douleurs aussi, parce que de t'attendre dans un monde où il n'est pas toujours évident de vivre, ben c'est pas toujours facile. Et Seigneur, je te remercie de rejoindre chacun. De rejoindre chacun. Et oui, tu reviens bientôt. Tu reviens bientôt. Et merci, merci pour ta parole. Merci parce que tu ne nous laisses pas orphelins. Merci parce que tu nous conduis sur ce chemin par ton esprit et que chacun ici puisse vraiment se sentir accompagné par ton esprit, que tu puisses te sentir accompagné par le Saint-Esprit. Jésus est avec toi, il l'a promis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à ce que je revienne. Il est là. Et je te remercie Seigneur, oui vraiment, que nous puissions chacun nous placer devant toi. Je te remets vraiment toute l'Église dans ce cheminement, Seigneur. Merci, merci parce que c'est en famille aussi que tu nous conduis. C'est en famille spirituelle que tu nous conduis. Seigneur, je te rends gloire. Je te loue, Père. Je te loue, Père, parce que tu sais très bien comment tu as fait les choses. Tu as fixé les temps de ta propre autorité. Toi seul sais. Et Seigneur, c'est ça qui nous donne de pouvoir vivre aussi la confiance, la paix en toi et que tu nous donnes aussi de vivre la joie. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen.